en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 27 mai 2013, l'Académie des sciences morales et politiques recevait en séance Madame Dora Bakoyannis, membre associé étranger de l'Académie, ancien ministre des Affaires étrangères de Grèce. Son intervention s'intitule « La France et l'Europe vue de la Grèce ». Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de cette communication.
Monsieur le Président, chers membres de l'Académie des sciences morales et politiques, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde émotion et beaucoup de joie que je reviens à l'Académie des sciences morales et politiques. Ma nomination, en tant que membre honoraire, est l'une des plus grandes honneurs de ma carrière politique. Je tiens à remercier la présidence pour l'invitation et l'opportunité qui m'a été offerte de m'adresser aujourd'hui à cette auguste assemblée. Mesdames et messieurs, permettez-moi de parler de l'Europe et de son avenir. J'éprouve, voyez-vous, le besoin de m'exprimer avec conviction et franchise. La gravité indéniable de la situation et l'impression que nous, hommes et femmes politiques, donnons au cours des dernières années, à savoir celle d'une capitulation au profit des économistes, rend impératif la revendication de la part qui nous revient de la vie publique européenne. Je fais allusion paradoxalement peut-être à la valeur considérablement réduite de nos jours de la politique autant qu'outil de progrès. Dans plusieurs pays de l'Union européenne, la politique, en tant que concept et valeur, est attaquée par les médias et une grande partie de l'opinion publique. Les erreurs, les abus et les distorsions qui ont conduit à la crise sont à juste titre, je dirais, imputées aux politiciens. Mais cette crise de représentation, admissible dans les démocraties qui renaissent de leurs cendres, ne doit pas mener par ailleurs à une crise de légitimité de notre système politique. Non seulement parce que la démocratie est le meilleur parmi les pires régimes politiques, pour paraphraser l'excellente définition de Churchill, mais aussi parce que je constate une dérive vers des extrêmes avec des choix marqués par l'intolérance et la haine, alimentés par la peur et l'absence d'espoir. Dans mon pays, par exemple, les enfants et les petits-enfants de ceux qui se sont battus de toutes leurs forces contre le fascisme et le nazisme, au prix de sacrifices surhumains, sont attirés, en raison de leur désespoir, par l'aventurisme sombre de mouvements organisés, croissant à un rythme alarmant, phénomène historiquement inconnu depuis l'après-guerre. La même tendance s'est observée ailleurs. La politique demeure pourtant la seule voie. Avec une note de romantisme, elle pourrait constituer la plus noble des professions. Pratiquement parlant, elle demeure le lien le plus direct capable de réunir les hommes autour d'objectifs communs, d'action et de changement. C'est la voie pour la constitution, le façonnement de position et pour l'action politique, condition indispensable à tout processus de changement. En particulier, je voudrais me référer à la sphère publique européenne, selon Habermas. Très souvent, sur notre continent, au cours des dernières années, le dialogue public est empoisonné. Malheureusement, le populisme règne et nous conduit à des simplifications manichéennes, imprégnées d'intolérance, stéréotypes, simplifications à outrance et aphorismes stigmatisent le discours politique et discréditent le dialogue public. La célèbre fable d'Ésope de la cigale et du fourni est peut-être commode, mais elle ne constitue pas une critique politique essentielle. De même, l'outrage aux symboles nationaux et l'évocation des moments tragiques de notre histoire contemporaine à partir de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à nos jours sont tragiquement indignes de notre civilisation commune. Je prends le risque d'annoncer que cette crise a jeté les bases de manière incontestablement douloureuse, d'une nouvelle et réelle sphère publique de dialogue, d'échange d'idées, d'avis et de propositions. À aucun moment, ni même au moment le plus glorieux de la construction européenne, l'actualité politique, économique et sociale des pays voisins n'a aussi fortement préoccupé la conscience publique de nos pays. Quotidiennement, les médias regorgent d'informations sur l'actualité de toute l'Europe. L'intérêt européen porté sur les élections françaises ou grecques en 2012, sur les récentes élections italiennes et sur les prochaines élections allemandes est révélateur. Cette évolution, fût-ce involontaire, constitue à elle seule une garantie précieuse pour l'avenir. Mesdames et messieurs, j'ai fait allusion au monopole des économistes, sans la moindre intention de contester l'importance de la profession, mais parce que je tiens à souligner l'importance de la tradition politique. Pour Aristote, le politique dépasse la simple addition des membres qui le composent. L'intégration européenne, cette expérimentation unique dans l'histoire, n'a jamais avancé selon des termes rationnels. Au contraire, comme vous le savez fort bien, l'euro, et notamment son adoption par l'Allemagne, constituait la réponse politique de la France à la crainte suscitée par la réunification allemande. Les grands dirigeants de la fin du siècle dernier, Mitterrand et Kohl, ont jeté les bases d'un nouvel équilibre des forces en Europe avec la monnaie unique comme catalyseur. L'euro n'est pas uniquement associé aux spreads. Il est à la stabilité, la solidarité, la paix et le progrès. La raison donc pour les enjeux par excellence politique, mais aussi profondément civilisationnels. À la seule condition cependant de préserver les institutions démocratiques acquises dont la primauté est très souvent remise en question de nos jours. Les forces de la mondialisation, le libre-échange, le flux quasi ininterrompu des capitaux, les marchés et les multinationales ont créé une jungle remplie de pièges dans laquelle nous, élus, sommes appelés à agir. De nos jours, la lutte pour la démocratie, la justice et le développement ne peut se réduire ni à un rejet stérile du courant historique de la mondialisation, ni à un nationalisme économique. Elle exige la coopération, la mobilisation et l'union. C'est justement pour cela que l'Europe, avec un projet profondément politique, est plus actuelle que jamais. Et je me réfère à l'Europe des valeurs des Lumières, à l'Europe de l'idée de la liberté, de la suprématie de l'individu, mais aussi du questionnement et du rationalisme. Partant des principes et des valeurs de la Révolution française, la modernité nous a conduits à travers des batailles sanglantes et des guerres épouvantables à notre vision commune pour un avenir d'évolution et de coexistence au sein de la famille européenne. Je reste une Européenne convaincue. Ma foi réside dans les grandes réalisations de l'Europe au cours des 60 dernières années, dépassant les plus hautes ambitions de Monnet, de Schuman, d'Adenauer, de Gasperi ou de Spaak. L'histoire montre que souvent les crises peuvent se transformer en opportunités. Les États-Unis actuels n'existeraient peut-être pas s'ils n'avaient survécu à la crise financière qui s'était abattue sur les États américains à la fin du XVIIIe siècle. C'est en notre pouvoir de faire en sorte que l'avenir de l'intégration européenne soit meilleur que son passé. À un moment où l'équilibre mondial est en train de changer, il est clair que plus que jamais, nous avons besoin les uns des autres. Plus que jamais, il est évident qu'ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup plus que chacun séparément. Par contre, tout délaissement de la vision européenne apparaît comme le mauvais présage d'un déplacement inévitable du centre de gravité dans l'échiquier politique mondial ou au détriment de notre Europe, mais encore de ses composantes constituantes, y compris de ses États membres. Mesdames et messieurs, la réalité telle que vécue quotidiennement est difficile, parce que peu scrupuleuse. Les pays du Sud plient sous le poids des déficits publics structurels et de la concurrence. Le chômage frappe nos pays et celui des jeunes atteint un niveau terrifiant. Notre contrat social s'écrit à nouveau. La Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, Chypre aujourd'hui. Mais encore une inquiétude se propage en d'autres pays en Europe, tels la Slovénie, pire envers des pays qui sont au cœur même de la construction européenne. Nous sommes tous mis à l'épreuve. Au même moment, pour ne mentionner que quelques exemples, nos amis les Britanniques souhaitent renégocier leurs relations avec Bruxelles. En Hongrie, des valeurs qui vont de soi sont contestées et l'instabilité gouvernementale menace des pays comme la Bulgarie, voisine de la Grèce. Un paradoxe historique définit notre époque. Ces trois dernières années, nous constatons un transfert de fonds sans précédent à un niveau supranational. Toutefois, à la même heure, la construction européenne, cette architecture même qui rend réalisable une action effective de solidarité, craque. Cette explication n'est ni simple ni évidente. Permettez-moi de me tourner à titre d'illustration vers mon pays, où d'ailleurs la crise européenne a commencé. Contrairement à l'Espagne, avec l'explosion de la bulle immobilière, ou à Chypre, avec les altérations d'un système bancaire hydrocéphale, la Grèce a souffert d'une double crise, crise de la dette et crise de compétitivité. La taille de notre secteur public et la balance des échanges extérieurs n'étaient pas viables. La suite est à peu près connue. Des mesures draconiennes, sous l'épée de Damoclès, du risque de faillite, un ajustement des finances publiques qui n'a pas son équivalent en période de paix, une libéralisation de l'économie et des réformes bouleversantes, même si j'avoue que j'en souhaiterais davantage, une rationalisation progressive de l'administration publique. Jamais par le passé, en période de paix, il n'a été demandé à un pays de faire autant au niveau économique en si peu de temps. Aujourd'hui, le risque de faillite ou un grec exit n'est plus plausible et les Cassandres ont été démentis. Toutefois, la lumière au bout du tunnel tarde à apparaître. Les privatisations avancent, les investisseurs manifestent un vif intérêt, mais le dramatique manque d'emploi menace la paix sociale. Si je suis dans l'agréable position de pouvoir vous confirmer aujourd'hui que la Grèce va y arriver, ce n'est pas seulement dû à la vague des changements survenant dans mon pays. C'est surtout grâce à nos ressources humaines, au niveau de formation élevé et au savoir-faire des jeunes, notamment qui constituent le grand atout de la Grèce. Mesdames et messieurs, nos efforts ne sont toutefois pas suffisants. Ceux des Italiens, des Espagnols, des Portugais ou encore de nos amis chypriotes ne suffisent pas non plus. Les sacrifices des Européens seront vains si l'Europe n'évolue pas. Je ne me réfère pas seulement aux mesures destinées à assurer le traitement de la dette grecque qui ont d'ailleurs déjà été anticipées dans les conclusions des conseils européens et que je pense se réaliseront. Je me réfère surtout aux mesures drastiques dictées par la loi de la nécessité au niveau européen. L'unification bancaire, le contrôle des budgets nationaux, le filet de sécurité avec la promulgation d'euro-obligations, l'examen en profondeur du marché des services, la mise en disposition des fonds du budget européen, loin des dogmatismes du passé, en direction d'investissements tourné vers l'innovation, l'extraversion, les infrastructures et la compétitivité, sont des questions qui doivent être posées dans la sphère publique. Les habitudes doivent se soumettre aux objectifs. N'oublions pas en plus que tandis que nous ne nous intéressons qu'à nous-mêmes, la carte économique du monde se modifie avec de nouvelles puissances émergentes qui apparaissent sur l'avant-scène, comme le Brésil, l'Inde ou la Turquie, de même qu'il est imminent un changement global des équilibres en faveur de l'Asie avec la Chine qui ouvre la voie. L'histoire nous enseigne que les nœuds gordiens ne se dénouent pas, ils se rompent. C'est seulement ainsi que nous pourrons faire face à notre paradoxe européen. Mais malheureusement, nous nous sommes permis d'être les otages des équilibres politiques intérieurs et des desseins de certains États membres. Les échéances électorales de certains ne peuvent s'identifier à des bornes sur la voie du redressement de l'Europe. C'est une illusion de penser que tous les choix de la Banque centrale européenne, même radicaux, remplissent le vide décisionnel. La vérité est qu'à nouveau, une charge particulière incombe à la France. Votre pays est condamné par son histoire et sa géographie à jouer un rôle déterminant dans les évolutions européennes. L'idée européenne, en théorie et en pratique, repose sur ses fondations franco-allemandes. L'équilibre de l'Union européenne exige un équilibre franco-allemand. Ces derniers temps toutefois, on observe un éloignement relatif de la France de la participation au noyau dur de la prise de décision de l'Europe. Le résultat en est le bouleversement de l'équilibre, avec des conséquences en chaîne. Le passé nous enseigne que la différence entre une Allemagne européenne et une Europe allemande ne résulte pas seulement de la retenue de Berlin, mais aussi de l'intervention positive de Paris afin de rétablir une interaction saine entre les deux au profit du projet européen. Je conçois les difficultés intérieures, les problèmes économiques et les défis sociaux. Mais aujourd'hui, plus que jamais, la France est appelée à s'élever. L'Europe a besoin d'elle. Mesdames et messieurs, les élections européennes imminentes, dans un an, à partir d'aujourd'hui, détermineront la grande lutte pour le présent et l'avenir de l'unification continentale. Une épreuve de taille pour chacun d'entre nous. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tardera à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres, dit Gramsci. Aujourd'hui, le risque de voir sur les bancs du Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles des formes extrêmes et instables d'opposition étrangère à la culture européenne, ainsi qu'aux valeurs et aux principes européens, est bien visible. L'accusation habituelle contre le monde politique en Europe est toujours que l'on n'a pas su garantir la prospérité de la cohésion sociale, mettant ainsi en danger le modèle européen de protection sociale. Mais à mon avis, et plus grave encore, la cohésion qu'il faut adresser à tous les politiciens de ma génération, à nous tous qui n'avons pas vécu la catastrophe de la guerre. Nous avons considéré l'Europe comme donnée et nous avons laissé la vision européenne sans protection. Nous nous sommes arrangés d'un discours politique intérieur en laissant la défense de l'Europe à une bureaucratie qui ne pouvait protéger politiquement, bien sûr, la vision européenne. Aujourd'hui, le comble à rebours est lancé. Nous avons besoin davantage d'Europe et non de moins d'Europe. Pas seulement en parole, mais surtout dans les actes. L'affaire de l'Europe n'est plus seulement l'affaire des politiciens. C'est l'affaire de tous, surtout des instances prestigieuses comme l'Académie des sciences morales et politiques. Et je vous invite, jusqu'aux élections européennes, à être à l'avant-garde dans ce combat, car pour la première fois dans l'Europe de l'après-guerre, le risque de voir disparaître tout ce que nous avons construit est quand même visible aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est indispensable d'aller de l'avant pour assurer un avenir meilleur à nous tous. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention.
Avant des questions, François Dancival.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, de cet exposé extrêmement stimulant pour nous-mêmes, pour les Français. Je vais revenir sur le cas de la Grèce que vous avez abordé il y a un instant. Vous nous avez dit, naturellement, les Grecs, nous allons sortir du tunnel. Et il est vrai que j'ai entendu le ministre grec des Finances dire qu'il comptait que, à la fin même de cette année, le déficit des finances publiques grecques, hors remboursement naturellement, serait équivalent à zéro. Ce qui est en effet une bonne nouvelle. Vous-même dites que parmi les mesures d'austérité qui ont été prises, vous auriez été plus loin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? Merci.
Pas dans les mesures d'austérité. Pour être très très clair, ce n'était pas du tout mon intention. Mais sur les réformes structurelles. Ce qui est très important, c'est de comprendre que nous, on est au milieu d'une crise immense. Malheureusement, pendant des années, l'État grec était un État clientéliste, un État où nous sommes responsables parce que nous, on l'a construit, un État très, très grand et un État qui n'était pas productif. Alors, ce que moi je dis aujourd'hui, et je le dis en Grèce avec toute autre voix, d'ailleurs pendant des années, c'est que cet État doit être nos premiers buts. On est en train de parler encore aujourd'hui, 3 ans et demi après la crise, si on va sortir de l'État, et certains gens qui sont condamnés, ou si on va... renvoyer des gens quand on ferme certaines organisations. Et au même temps, on a 1 300 000 gens au chômage. Vous comprenez que c'est très difficile de dire à ces gens qu'il y a des privilégiés, qui sont des gens qui travaillent dans l'État, envers eux, qui sont renvoyés de leur travail de l'un jour à l'autre. C'est ça que je dis. On doit ouvrir. On a encore des emplois fermés en Grèce. Mais si on ouvre ces emplois, on sait qu'il y aura des gens qui vont trouver du travail. Bon, donc ça, ce que je me bats en Grèce, c'est parce que le système politique grec est plus près encore aujourd'hui de couper des salaires ou des retraites au lieu de s'attaquer à son problème à lui. C'est ça que je voulais dire avec ma notion.
Jean-Henri Soutou.
Monsieur le Président, merci. Madame le Ministre, merci beaucoup pour votre exposé d'une très grande franchise et d'une très grande lucidité. Nous sommes tous, moi-même j'ai beaucoup de collègues grecs avec lesquels je suis en contact depuis 30 ans, nous sommes tous tout à fait conscients des efforts fournis par la Grèce et par son peuple pour sortir de la situation actuelle. Et vous avez vous-même, madame, indiqué un certain nombre d'orientations nécessaires au niveau européen, nécessaires pour tout le monde. Tous les pays européens se trouvent dans une situation difficile, peut-être pas au même niveau, mais tous. Et je vais peut-être surprendre certains auditeurs, même la République fédérale n'est pas dans une situation totalement satisfaisante, loin de là. C'est donc une tâche commune, et vous l'avez fort bien rappelé. Vous avez fait allusion, même assez clairement, si je vous ai bien entendu, aux problèmes posés par le rapport entre la France et l'Allemagne, qui est évidemment au cœur de la construction européenne depuis 1950, tout le monde le sait, et qui fonctionne peut-être moins bien en ce moment, ce n'est un secret pour personne. Vous avez évidemment raison. Je voudrais faire juste une remarque. La coopération étroite de la France et de l'Allemagne est à la fois nécessaire, mais en même temps, elle est insuffisante aujourd'hui. Dans une Union européenne à 27, on n'est plus dans la situation d'une Union européenne à 6, d'une communauté encore européenne à 6. Il faut maintenant tenir compte du fait que même si Berlin et Paris sont d'accord, ce qui n'est pas toujours le cas, sont d'accord pour une politique, pour une évolution, il est mathématiquement et politiquement nécessaire d'attirer également, de susciter l'accord des autres pays membres. Et donc, il faut en revenir à ce qui a été, à mon sens, à ce qui a été la base de la construction européenne depuis le début. C'est ce qu'on appelle la méthode communautaire, qui essaie justement de gommer le fait qu'il y a des pays plus peuplés que d'autres, des pays plus importants que d'autres, moins importants, moins peuplés, entre guillemets, de façon à arriver à prendre des décisions en commun. Alors je reconnais que c'est plus difficile quand on est 27 que quand on est 12 ou 6, mais il faut... absolument sans rêver à de nouveaux traités européens. Aucun traité européen nouveau ne pourrait être voté en ce moment par les parlements, c'est évident. Mais il faudrait trouver le moyen de faire fonctionner correctement les institutions européennes existantes dans le cadre réel aujourd'hui et de la crise, bien sûr, et d'un nombre de pays membres qui obligent de changer les méthodes de fonctionnement du Conseil européen, de la Commission, du Conseil des ministres européens, etc. Et c'est dans ce cadre renouvelé que la coopération franco-allemande pourrait retrouver son sens, à mes yeux, de façon utile. Je vous remercie.
Je suis absolument d'accord avec vous, mais pour être honnête, je ne le vois pas à ce moment. Et la vérité, c'est que au moins les pays du Sud, les pays que moi je connais mieux, et je parle de tous les pays méditerranéens, mais aussi d'autres pays dans l'Europe, souhaiteraient une France beaucoup plus active. C'est bien de parler d'un équilibre nécessaire entre la France et l'Allemagne, et c'est ça la base de la construction européenne. Et bien sûr, tout le monde, et nous, par exemple, la Grèce, on est un petit pays. On sait très bien qu'on ne peut pas jouer le rôle de la France ou le rôle d'une autre puissance très importante européenne. Mais pour être très, très honnête et très ouverte avec vous, ça me manque, la France, aujourd'hui, comme européenne et comme grecque. Je ne la vois pas, la France, autant que je la voudrais. Et l'Europe a besoin d'une France active. L'Europe a besoin d'une France présente. Si M. Schäuble a dit hier qu'il a changé d'avis, apparemment, et il trouve que c'est nécessaire de donner que les banques allemandes doivent être beaucoup plus présentes avec des investissements dans le Sud, etc., c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin de notre équilibre en France. Et mesdames et messieurs, vous pouvez me dire que peut-être j'exagère, mais je fais ce métier pendant 25 ans et je suis quelqu'un qui croit vraiment à cette Europe forte. Et je me fais des soucis, des grands soucis pour ces élections européennes. J'ai vraiment peur que les gouvernements et les partis politiques vont se réveiller lundi matin après les élections européennes et vont se demander qu'est-ce qu'on a fait. Pourquoi cette idée de l'Europe? J'ai vu les derniers sondages. Les derniers sondages européens sont vraiment à avoir peur. Imaginez-vous que la Grèce, le pays, un petit pays qui a tellement souffert pendant les trois dernières années, qui a payé un argent fou, où les salaires sont moins de 35%, où les gens sont au chômage, est un des pays les plus pro-européens. Les autres sont moins pro-européens que la Grèce. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas quand même. Il y a quelque chose, et à mon avis, c'est pour ça que j'ai parlé de ma génération, c'est ma génération qui ne fait rien. C'est ma génération qui était habituée à faire de la politique avec les sondages, et avec un peu de lifestyle, avec beaucoup de populisme. Et on ne fait que parler à notre... électorat. Et on oublie qu'il n'y a personne de faire notre travail pour l'Europe. Et maintenant, on y est là. Et il n'y a qu'un an. Il n'y a qu'un an. Parce que la crise est grande. L'euro est dans la crise. L'économie ne va pas. Et si vraiment, aujourd'hui, on met l'Europe en danger, ça sera notre faute. Alors, excusez-moi si je vous parle avec une telle passion, mais je me fais des soucis, vraiment des soucis. Et je crois que nous tous, on est tellement... Bah, chez mon pays, on ne parle que de nous. Ah, c'est normal. C'est nous qui souffrons. C'est notre population qui souffre. Donc, on ne parle que de nous. On ne parle que de ce que l'Europe peut faire pour nous. Et personne n'en parle que qu'est-ce que pouvait la Grèce peut-être faire pour la vision de l'Europe. Ce n'est pas intéressant à ce moment. Bon, mais tout ça, ça coûte. Et ça va nous coûter à nous tous, à mon avis.
Merci. Christian Poncelet.
Merci, madame, de votre excellent exposé. Mais en votre qualité de personnalité politique, permettez-moi de vous poser la question suivante. Quelle appréciation portez-vous sur la création toute récente d'un nouveau parti politique qui devient de plus en plus important en Allemagne? J'ai eu l'occasion de l'écouter tout récemment, le leader de ce parti politique à Francfort. Il y avait une population extrêmement importante et sa conclusion était la suivante. Il est urgent que l'Allemagne quitte l'Europe, car l'Europe va ruiner tous les Européens. Quel est donc votre sentiment sur cette attitude?
Écoutez, s'il y a un pays, à mon avis, qui a gagné de l'Europe, et de l'Union européenne et de l'euro, c'est les Allemands, plus que n'importe quel autre. Donc, à mon avis, ils savent très très bien que avec l'euro, c'est eux qui en profitent de plus. Deuxièmement, j'ai dit une fois à la chancelière Merkel...
Elle est inquiète actuellement pour sa
réunion. Oui, non. Elle n'est pas tellement inquiète. Mais elle sera obligée de faire une grande coalition qui sera très bien pour l'Europe. Mais, à mon avis. Mais de toute façon, je l'ai dit, c'est une grande différence. Si vous allez, comme en Chine, comme la chancelière allemande et du D-Mark, donc la chancelière allemande, point, c'est tout, ou si vous allez comme la chancelière allemande automobile de l'Union européenne. C'est une très grande différence. Les Chinois ne vous voient pas de la même façon. Et ça, les Allemands le savent. Donc, à mon avis, ce parti ne prendra pas plus que 3%. Ces 3%, probablement, après le sondage, seront pris de la droite, bien sûr. Et probablement, les Allemands, c'est trop tôt pour le dire, parce qu'il y a 6 mois, et 6 mois dans la politique, c'est éternel. Mais quand même, comme c'est la situation aujourd'hui, probablement, en Allemagne, ils seront obligés à faire la grande coalition. Et là, c'est un avis personnel, c'est best case scenario pour l'Europe.
Michel Perrault.
Oui, merci beaucoup, madame, de cette présentation qui était en effet très stimulante. Je voulais vous poser les questions suivantes. Tout d'abord, c'est une question un peu factuelle. Quel est votre sentiment sur l'apport de l'Europe au niveau de vie des Grecs? C'est-à-dire, pensez-vous que, après la chute très importante qu'est en train de connaître le peuple grec en matière de niveau de vie, il se retrouve, le peuple grec, à un niveau de vie qui correspond à ce qui existait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Là, c'est une question informative. Ma deuxième question était de savoir comment vous appréciez l'effort qui a été consenti par les créanciers privés dans l'opération grecque. C'est une... il y a eu un abandon de créances qui a été réalisé par les investisseurs privés qui représentent, je crois, à peu près la moitié de leurs créances en nominal et un peu plus de 70% en valeur réelle. C'est un effort qui doit représenter à peu près les abandons de créances qui ont été subis par le secteur privé sur des pays comme l'Argentine. Est-ce que vous pensez que suffisamment a été fait ou non? Et pensez-vous que ceci doit être complété par des abandons parallèles de la part du secteur public? Puis ma troisième question était relative à l'Europe. Je pense comme vous qu'il faut saisir l'opportunité de ces événements difficiles pour faire avancer l'Europe. Et la question que je me posais était, compte tenu de ce qui est aujourd'hui la situation de la Grèce, quels sont les abandons de souveraineté que, à votre avis, pourrait accepter dans un cadre démocratique un pays comme la Grèce pour faire avancer l'Union européenne? Une des questions posées par les Allemands est de savoir dans quelle mesure l'argent qu'ils mettent dans un pays, comme les autres créanciers, peut permettre d'améliorer les conditions de gestion de ce pays. Et donc, la question des abandons de souveraineté est une question centrale aujourd'hui. C'est une question sur laquelle les Français et les Allemands ne sont pas toujours d'accord entre eux, d'ailleurs. Et donc, c'est une question dans laquelle l'avis d'un pays comme la Grèce, qui est confronté à ce type de sujet, peut être très, si je puis dire, peut permettre de faire avancer la réflexion. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Je vais essayer de répondre vite. C'est à peu près le niveau il y a 15 ans des gens. Mais vous savez, il y a une grande différence quand même. C'est toujours plus facile de rester là où on est que de redescendre. Donc les Grecs sont redescendus au niveau qu'ils avaient il y a 15 ans. Du point de vue politique, c'est très, très difficile à gérer. Hein? Et en plus, comme ma sœur a dit, on a un grand problème d'inégalité. C'est, le coût n'est pas distribué d'une façon égale. Et il y a les gens qui n'ont rien perdu, en fait, qui ne paient encore pas de taxes, etc. Et les gens qui ont presque tout perdu. Donc, cette inégalité, c'est encore plus difficile à gérer du point de vue politique. Et de votre deuxième question, oui, le secteur public doit participer maintenant. Et je crois qu'il y a un accord sur ça, qu'après 2014, quand ça sera clair que la Grèce sera capable, aura géré ces problèmes, qu'à ce moment-là, le secteur public entre. Parce que ça, ce sera très, très important, parce que la dette n'est pas viable, en fait, aujourd'hui, même aujourd'hui, après tous ces efforts. Donc, c'est très important que la dette sera viable à un certain moment. Donc, là, le secteur public, c'est très important. Et votre troisième question, c'est la question principale. Qu'est-ce qu'on a accepté, nous, en Grèce? Au fait, on a accepté qu'on n'est pas souverain dans la gestion économique. ça. Et le peuple l'a accepté. Il y a trois très gentils messieurs qui arrivent, qui s'appellent la Troïka, qui ne sont ni gentils ni beaux, et qui arrivent chez nous et qui nous dictent ce qu'on doit faire. Et en plus, ce qui est le pire, c'est que ces gens-là, très souvent, parce qu'ils ne sont que des cadres... des cadres... hein, des fonctionnaires... bon, et ne comprennent rien de la politique. Donc, ils demandent des choses qui sont politiquement absolument impossibles de faire. Parce que quand même, ce qu'ils oublient, et ils l'oublient facilement, c'est qu'on est une démocratie. Alors, la démocratie, c'est comme j'ai dit, la meilleure des pires des systèmes, ce qui veut dire que le peuple, quand il en a assez, il en a assez. Donc, il faut quand même avoir le même résultat, mais d'une façon un peu plus menable. Donc, le peuple a accepté ça. Si vous me demandez si le peuple aurait jamais accepté ça, c'est très, très sensible aujourd'hui. Sur les questions, par exemple, de la politique étrangère, sur nos problèmes avec la Turquie, sur le problème de Chypre, sur le problème du Fyrom, l'ex-Macédoine, etc. Et si là, ils auraient accepté, je crois que non. Ça serait le fil rouge où le peuple disait, OK, sur le plan économique, ça va, on vous donne des décisions, mais sur des questions... qui s'appellent nationaux, là, je crois qu'on aurait une réaction très, très vive. Alors, si je peux dire, c'est là la distinction des deux. Mais de l'autre côté, les Grecs comprennent que si on veut une Union européenne politique, si on veut une Union européenne forte, ben, on va perdre une partie de notre souveraineté. Il n'y a pas d'autre façon. On ne peut pas dire qu'on va être souverain à tout et avoir aussi une Europe forte du point de vue politique. Donc là, je crois que les Grecs le comprennent très bien, ça.
Bernard Bourgeois.
Merci, Monsieur le Président. Vous nous avez... émue, madame, car nous n'oublions pas qu'une bonne part, la grande part de nous-mêmes, est d'être quand même des Grecs. Vous avez dit deux choses qui me semblent très justes en ce qui concerne la construction européenne. La première, c'est que c'est une entreprise unique. Je ne vois pas d'exemple. Je me trompe peut-être, mais je ne vois pas d'exemple dans l'histoire de nation véritable, pas de canton ou de province, même s'appelant des États, des nations véritables, constituées, ayant une tradition, qui aient réussi à s'unir de façon véritable, c'est-à-dire à constituer une sorte de nouvelle nation, qui a été durable. C'est donc une entreprise inouïe, une entreprise difficile entre toutes. Vous avez dit une deuxième chose qui me semble également très juste, c'est que nous avons besoin d'une Europe. C'est que l'Europe a besoin de la France et d'une France plus audacieuse et forte. Et que nous avons besoin de plus d'Europe. Invoquer le besoin, c'est donner un argument, ce n'est malheureusement pas fournir un moyen. Le besoin est la manifestation d'une limite, c'est-à-dire d'une faiblesse. Ce n'est pas parce que les Européens ont besoin d'Europe qui vont et qui peuvent la faire. Ce n'est pas en additionnant du négatif qu'on va faire naître du positif. Le malheur de l'Europe, si je puis dire, ou des Européens, c'est qu'ils ont besoin d'une Europe parce que ces composants possibles d'une Europe future sont et sont conscients de leur faiblesse ou d'une relative faiblesse d'eux-mêmes. Je crois que ce ne sont pas les besogneux qui créent, mais sur ce point, j'évoquerai volontiers Nietzsche, ceux qui créent sont ceux qui désirent et non pas ceux qui ont besoin, c'est-à-dire ce sont les forts. Mais lorsqu'un fort crée politiquement, il est tout de suite suspecté d'impérialisme et Dieu sait que les Européens ne veulent pas du tout qu'une construction européenne soit l'œuvre d'un quelconque impérialisme. Par conséquent, vous avez mis le doigt sur une difficulté de principe majeure en ce qui concerne la possibilité d'une construction européenne. Et si on évoque les exemples de la Grèce précisément, les Grecs ont été créateurs, et combien ? Lorsque chacun n'a pas attendu pour agir l'aide et le secours des autres, mais a osé agir seul, et on peut prendre les exemples d'aussi bien Sparte, les Thermopyles, que les Athéniens, Salamine, et surtout l'exemple d'Alexandre le Grand. Voilà pourquoi je trouve que vous avez fort bien posé le problème. Et je vous dis mon inquiétude et mon pessimisme, parce que ce n'est pas parce que les gens ont besoin d'Europe qu'elle va se faire. Je trouve même que c'est plutôt un mauvais pronostic. Merci.
Bah, je n'ai rien ajouté. Mais on va se battre quand même pour changer le pronostic. Hein?
Jean-Claude Trichet.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était un très grand privilège que de pouvoir vous écouter, Madame, ce qui a été aussi mon privilège dans le passé à certains moments. Et je dois dire que, ayant vécu la crise depuis son début, en tout cas dans son épisode grec, dans son épisode risque souverain, j'ai été témoin en effet de votre acharnement et celui de tout un ensemble de responsables grecs pour maintenir dans des circonstances qui ont été réellement absolument dramatiques le drapeau européen et là, en faisant preuve d'énormément de courage, la solidité de ce bâti européen dont vous étiez finalement le point absolument clé. La Grèce a été absolument clé au niveau européen et aussi dans une certaine mesure au niveau mondial. Je voudrais revenir sur deux points que vous avez abordés. France-Allemagne, je pense que vous avez tout à fait raison de dire que en période de crise, le couple franco-allemand demeure absolument indispensable. Je pense que on pourrait s'en passer en période normale, et peut-être même devrait-on s'en passer en période normale où les institutions européennes, éventuellement rénovées, profondément rénovées, pourraient fonctionner, la méthode communautaire pourrait fonctionner. Mais j'ai été moi-même le témoin dans les différents conseils européens de chefs d'État et de gouvernement qui demandaient en réalité à la France et à l'Allemagne d'avoir un dialogue constructif et d'être capable de présenter éventuellement, naturellement, des solutions qui pouvaient être ensuite discutées. Mais c'était considéré, je dois dire, comme un passage un peu obligé. Donc je ne suis pas étonné que vous l'ayez redit, et je pense, si je puis me permettre, que vous avez raison pour les périodes de crise. Et Dieu sait que nous sommes en période de crise encore. De ce point de vue-là, nous avons, dans la crise, négocié deux traités nouveaux. Le traité qui a créé le mécanisme européen de stabilité et le traité qu'on appelle le Fiscal Compact, dans le jargon. J'espère, comme vous, madame, si j'ai bien compris votre exposé remarquable, qu'on ira plus loin. Et pour aller plus loin, il me paraît à peu près clair qu'il faut un autre traité. Ceci dit, je ne méconnais pas les difficultés énormes que l'on peut avoir sur le plan politique. Je suis réconforté d'entendre madame le ministre nous dire « La Grèce demeure profondément européenne ». Je dois dire que dans les dernières enquêtes d'opinion qui sont faites, l'Allemagne aussi, la Grèce et l'Allemagne, en dépit de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, demeure assez profondément européenne. La France me fait peur, personnellement, lorsque je vois l'évolution de ses propres sensibilités. Et ça rend d'autant plus fort le message que vous venez de nous passer. Je voudrais aussi aborder un point qui est difficile. Et peut-être allez-vous trouver que je suis un petit peu trop incisif. C'est vrai qu'il y a eu une baisse considérable des revenus, des traitements et salaires en Grèce depuis la crise. Mais c'est vrai aussi, malheureusement, qu'il y avait eu totale absence de reconnaissance que lorsqu'on est dans un espace à monnaie unique, il faut faire très très attention aux évolutions nominales. Je dis ça pour la Grèce, je peux dire ça aussi pour notre propre pays et pour tous les pays qui sont dans une zone à monnaie unique. On ne peut pas se permettre d'avoir des revenus, des coûts, des inflations domestiques qui dérapent par rapport à ce qu'est la moyenne de la zone dans laquelle on se trouve. Et de ce point de vue-là, j'ai pu observer moi-même, sous le regard d'ailleurs de l'ensemble des gouvernements européens, donc il n'y a pas que le gouvernement grec qui s'est comporté de manière inconséquente et légère, mais tous les autres avaient sous les yeux les chiffres. Et pour vous donner simplement un chiffre qui complète ce que nous disait Madame le ministre, les traitements et salaires dans la fonction publique en Grèce avaient augmenté en moyenne, en euros, de 117% du départ de l'euro jusqu'à la fin de l'année 2009, alors que la moyenne était de 36, et accessoirement que l'Allemagne était à 20. Donc ça fait une énorme différence. Or, c'est une monnaie unique. Et donc, ma question, si je puis me permettre, est-ce que vous croyez que maintenant, après tout ce qui s'est passé, on considère en Grèce, en effet, qu'il faut être extraordinairement attentif à toutes les évolutions nominales pour conserver la compétitivité, faire revenir les touristes, être sûr que l'on peut implanter à nouveau des activités, quoi qu'il en coûte, parce que c'est toujours très difficile, évidemment, d'avoir une modération générale des revenus, des coûts et des prix. L'un des problèmes, d'ailleurs, est que les prix eux-mêmes avaient monté, diminuant le pouvoir d'achat de l'ensemble de vos concitoyens. Je dois dire que dans les autres pays, je ne suis pas sûr qu'on ait bien compris toutes les leçons de la crise. On l'a, je crois, compris en Espagne, au Portugal, en Irlande, qui ont fait des efforts considérables, de moindre ampleur que les vôtres, parce qu'il y avait moins de raisons, mais enfin, qui ont fait des efforts considérables. Mais dans un certain nombre d'autres pays, je ne suis pas sûr que l'on soit parfaitement conscient de ce que représente comme discipline nécessaire sur le plan des évolutions nominales, le fait d'appartenir à une monnaie unique. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur Trichet, je suis absolument d'accord avec vous. Je suis prête à avouer que notre gouvernement s'est comporté d'une façon absolument responsable, irresponsable. Et vous avez absolument raison. Les gouvernements, il n'y avait pas que le nôtre de l'époque, mais les gouvernements grecs, se comporter d'une façon comme si on était l'Allemagne. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, parce que, bon, on a nos responsabilités à nous, il n'y a pas question, mais la raison pour laquelle, c'était que, au fait, l'euro n'était pas préparé pour une crise. Donc, si un petit pays comme la Grèce, où les chiffres étaient connus, parce que les chiffres, tout le monde les connaissait, pouvait emprunter l'argent exactement de la même façon comme l'Allemagne, eh bien, il y avait un problème. Et ça, on l'a compris beaucoup plus tard. Donc, emprunter de l'argent, ben, c'était très bien. Moi, j'étais maire d'Athènes, mesdames et messieurs. J'ai emprunté 150 millions d'euros en préparant les Jeux Olympiques. Eurobond 01. C'est rien. On m'a fait cadeau de l'argent. Et donc, j'ai pris cet argent. Et j'ai fait, bon, je crois que j'ai bien managé l'argent, mais au fait, je n'ai même pas pensé une deuxième fois si je vais prendre 150 millions d'euros ou non quand j'avais les Jeux Olympiques. Parce que c'était très facile. Alors moi, je me demande de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils faisaient tous ces grands banquiers, économologues, responsables, etc. Ils ne voyaient pas que pendant 10 ans, il y avait des pays qui empruntaient de l'argent avec une facilité incroyable. Et là, je crois qu'il y a aussi d'autres responsabilités. Bien sûr, je veux être très clair, la première responsabilité, c'est la nôtre. Il n'y a pas question. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils sont conscients? L'enjeu, c'est un enjeu politique. Et les gens qui supportent le gouvernement, qui ne sont pas complètement majoritaires aujourd'hui, sont conscients. Donc, une partie des Grecs est absolument consciente de ce qui ne s'est pas passé bien, des fautes qui ont été commises, et de l'autre façon dont on doit se comporter. Mais la vérité, c'est que le populisme est très présent. Vous savez, nous, Grecs, on a inventé la démocratie, mais on a inventé le populisme avec. C'est tout de suite. Il n'y avait pas de temps entre la démocratie et le populisme. Tout à fait, si vous connaissez mieux l'histoire grecque que moi, vous savez très bien que dès nos ancêtres, il y avait toujours des populistes avec la démocratie. Donc ça, c'est toujours existant. Et autant que la gauche dit qu'il y a une façon miraculeuse d'avoir de l'argent sans payer les dettes, d'avoir de la compétitivité sans baisser les salaires. Il y a toujours une partie de la population qui veut bien le croire. Et vous savez, c'est partout la même chose. Donc je crois qu'on est sur une bonne voie. C'est la première fois que beaucoup de partis et surtout les médias supporte une politique très, très difficile, mais ça ne veut pas dire qu'on va gagner les prochaines élections.
Merci. Et Emmanuel Leroy-Ladurie.
Oui, est-ce que vous avez un cadastre en Grèce? Et si vous n'en avez pas, est-ce que ça vaudrait encore la peine d'en créer un, puisque la principale source de richesse n'est plus dans l'agriculture?
On a un moitié de cadastre. Ça veut dire qu'on est en train d'en finir le cadastre. Et on a une grande partie de la Grèce qui a déjà fait et on est en train de le finir. C'est une des très mauvaises histoires grecques pendant le gouvernement de M. Papandréou père, pas Papandréou fils, Papandréou père. L'Union européenne nous a donné l'argent pour le cadastre qui s'est enfui, l'argent. Et le cadastre n'a pas été fait. Donc, on a commencé beaucoup plus tard à faire le cadastre. Mais de toute façon, on a absolument besoin d'un cadastre. Et on va en finir, je crois, cette année.
Jean Tulin.
Merci, Monsieur le Président. Madame le Ministre, j'ai sous les yeux une publication qu'on vient de nous distribuer de l'Académie des sciences morales et politiques, « Les États en faillite, point d'interrogation ». Je l'ouvre et je découvre que la situation de la France en 1797 était à peu près ce que vous connaissez aujourd'hui, et que les Thermidoriens, qui me sont chers, trouvèrent une solution. Ce fut évidemment la banqueroute, la fameuse banqueroute des deux tiers, rebaptisée tiers consolidée, car tout est dans les mots, on le sait, dans le domaine financier. Bien entendu, après cette banqueroute, les pauvres restèrent aussi pauvres. Les rentiers et les retraités furent ruinés, mais ils avaient vocation à l'être. Et à partir de cette situation, Bonaparte parut et créa le franc germinal, un franc stable qui allait rester jusqu'au franc Poincaré. Alors permettez-moi, Madame le Ministre, de vous poser la question, n'aurait-il pas été préférable de déclarer la banqueroute de la Grèce? Certes, vos pauvres seraient restés pauvres, mais ils auraient eu peut-être l'espoir de devenir riches grâce à cette banqueroute, que vous n'auriez pas appelée banqueroute, bien entendu, car avec votre génie, le génie du peuple grec, vous auriez appelé ça la dette restructurée. Ce qui ne veut rien dire, mais qui dissimule que des deux tiers de la dette ont été engloutis. Bien entendu, Madame le Ministre, je ne me permettrai pas d'intervenir dans les affaires grecques, c'est une question que je vous pose et je tiens à vous dire que je ne postule en aucune manière le poste de ministre des Finances du gouvernement grec. Merci, Madame le
Ministre. Ben vous savez, pendant ces derniers trois ans, je me bats avec pratiquement tous les banquiers allemands dans les discours publics sur cette question. Parce que la plupart des banquiers allemands me disent, écoutez, madame, la meilleure chose pour la Grèce serait de sortir de l'euro, aller reprendre votre drachme, dévaluer votre drachme, comme ça vous serez compétitive et la situation serait meilleure. Bon, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? On ne l'a pas fait parce que, monsieur, je crois, c'est un avis personnel, mais la plupart des Grecs croient qu'en partant, en sortant de l'euro, parce qu'on ne pourrait pas faire faillite dans l'euro, donc il fallait sortir de l'euro, en sortant de l'euro, la Grèce serait 50 à 60 ans en arrière. Et en plus, comme vous avez très bien dit, nos rentiers seront pauvres, les pauvres seront pauvres, les riches probablement seraient un peu plus riches. Et en plus, la Grèce se vendrait pour rien. Qu'est-ce qu'elle est, la Grèce? La Grèce, c'est un paysage magnifique et ça se vendrait pour absolument rien. Donc, en pensant à tout ça et en savant très bien que la voie qu'on a décidée est très, très difficile, parce que M. Trichet est beaucoup plus qualifié que moi de vous expliquer que quand un pays essaye de se redresser dans une monnaie... C'est très, très difficile. Mais pour nous, l'appartenance à l'euro et l'appartenance à l'Union européenne, ce n'est pas seulement une question économique. Pour nous, pour la Grèce, c'est une question plutôt politique. Parce que n'oubliez pas que la Grèce est le pays le plus éloigné du cœur de l'Europe. On a des voisins très sympathiques, mais quand même pas européen. Donc, on est en train d'avoir des tas de problèmes autour de nous. Donc, pour nous, ce n'était pas seulement un choix économique d'appartenir à l'Europe, mais c'était aussi d'un point de vue stabilité politique. Donc, on a fait ce choix. C'est pas facile. Mais si je peux me permettre, je crois que cette petite Grèce va vous surprendre. Parce que ce pays et ce peuple est un peuple qui travaille bien sous pression. Et vous allez rire, mais personne ne croyait que nous allons faire des Jeux Olympiques. Je passais mon temps pendant un an et demi à donner 1780 interviews en essayant de persuader le monde que la Grèce sera prête de faire les Jeux Olympiques. Bah, zéro résultat. On ne me croyait pas. À la fin, la Grèce a fait les Jeux Olympiques parce qu'on était sous pression. Donc, en ayant sous pression, on a vraiment délivré, on a fait ce qu'on devrait. Je crois que on se redressera. Et j'espère, parce que comme une femme politique, et tous les politiciens, comme vous savez, sont des optimistes, parce que sinon, ils auraient changé de travail, ils auraient fait quelque chose d'autre. Mais ils sont des optimistes, donc j'espère que la Grèce, dans 3 ans, pourra, avec une autre base, beaucoup plus solide, re-entrer dynamiquement dans l'économie qu'on veut. Au moins, j'espère. On sera là pour voir si j'ai raison.
La discussion est tellement passionnante que Michel Pemereau veut y revenir. Mais alors, très courtement.
Très courtement, en effet. Pardon, Monsieur le Président, d'être en dehors de nos normes. Simplement pour indiquer à notre confrère Jean Tullard que la Grèce a fait sa banqueroute des 2/3, même un tout petit peu plus. Tout à l'heure, j'ai été imprécis à ce sujet. Les investisseurs privés ont perdu 71% de leurs créances. Donc la banqueroute des 2/3 a été réalisée. La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure les créanciers publics sont susceptibles de suivre cet exemple, qui est une question qui jusqu'à présent n'est pas traitée. Mais Madame le ministre indiquait tout à l'heure que c'est une question qui va être traitée probablement dans un proche avenir. Et donc pour ce qui est du franc germinal, la Grèce l'avait déjà, ça s'appelle l'euro. Et donc il me semble en effet que toutes les conditions sont rassemblées, la banqueroute et le franc germinal, pour que l'avenir de la Grèce soit aussi brillant que celui de la France au XIXe siècle.
On Merci. Est en train de chercher un Napoléon. C'est ça qui nous manque.
Alors, les traditions de l'Académie sont que seuls les membres posent des questions, mais je vais utiliser le pouvoir discrétionnaire du président pour donner la parole à Mme Plasnik qui souhaite poser une question.
Merci, Monsieur le Président, d'abord de m'avoir invité et de me donner la parole, mais je trouve qu'une deuxième voix de femme ne ferait pas du mal à cette enceinte illustre. C'est d'abord pour un commentaire et ensuite pour une petite question. Le commentaire d'abord, je viens de l'Autriche, je représente l'Autriche ici en France. L'Autriche est sortie de cette crise relativement indemne. Nous sommes pour l'instant champions d'Europe en ce qui concerne l'emploi et je crois que c'est là la grande question qui devrait nous préoccuper maintenant. J'étais impressionnée comme toujours par le courage et la passion de Mme Bakoyannis parce que dans des circonstances tout sauf faciles, elle a fait preuve de son esprit, de son acharnement, je dirais même, européen. Elle nous a fait le plaisir de nous lancer un défi, un grand défi pour 2014. Nous ne voudrions pas nous réveiller avec un vote de l'électorat européen qui nous pousserait tous, surtout les élites politiques, sur la route, plus loin encore sur la route du populisme. Et je crois que là, c'est un message important, débouler les élites en réalité. Il faut se réveiller parce que l'Europe a surtout besoin d'avocats. Et ces avocats, ça doit aussi passer par les élites. Ne laissons pas cet espace public européen aux populistes, aux cyniques et aux frileux. Il faut s'engager sur cette Europe. Et moi, j'ai souvent l'impression que cette vision européenne est menacée de deux côtés. D'un côté, par ceux qui sont hostiles pour une raison ou une autre à ce projet européen pour commencer, mais aussi les autres que j'appellerais les amants déçus, ceux qui sont en faveur de l'Europe, mais qui ajoutent un « mais » et derrière le « mais » se cachent en réalité les débuts de l'hostilité envers ce projet européen. Oui à l'Europe, mais à une Europe moins bureaucratique, à une Europe plus sociale, à une Europe plus solidaire, à une Europe moins ceci, moins cela, ou plus ceci, plus cela. C'est pour ça que j'ajouterai ma voix à cet appel que nous vient de la Grèce, d'un pays qui vient de passer un moment excessivement difficile de son histoire et qui nous lance ce défi avec espoir et passion. J'arrive à la question, je voudrais quand même bénéficier de la présence de Mme Bakoyannis, éminente ministre des Affaires étrangères pour lui poser la question, comment est-ce que vous voyez le voisinage immédiat, les Balkans d'un côté, la Turquie de l'autre côté? Je crois que c'est une question qui pourrait aussi intéresser nos amis français. Merci.
Commençons de parler de la Turquie. Je crois que la Turquie, les derniers 10 ans, c'est une Turquie complètement différente. Moi, mesdames et messieurs, je suis pratiquement chaque mois en Turquie. En parlant des différents forums, des universités, etc. La Turquie, aujourd'hui, est un pays très fort, très dynamique, avec une économie très forte. Je crois qu'on pourrait tous être jaloux de certains traits de son économie, avec une démocratie moins forte, un premier ministre très doué et une confiance à elle-même complètement, différente. La Turquie aujourd'hui, c'est des gens qui sont très, très sûrs d'eux-mêmes. Du point de vue européen, ils sont beaucoup moins intéressés qu'ils étaient avant. Ils gardent les prétextes, mais ils gardent les prétextes. Ils se disent, bon, nous, on va continuer, oui, nous sommes intéressés, bien sûr. Pour la Turquie, c'est important l'Europe. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a aucune comparaison avec le comportement et la volonté de la Turquie en 1999. Mais il n'y a aucune comparaison. Et aujourd'hui, elle est menacée avec... Elle a des problèmes autour d'elle, bien sûr. En commençant avec la Syrie, l'Iran, les relations avec la Russie, etc. Et les relations avec nous, d'ailleurs. Mais c'est une Turquie qui sait et connaît son importance dans la politique aujourd'hui. Donc, pour nous, les Européens, à notre avis, et c'est là où il y a une grande différence entre la vie française et la vie grecque, à notre avis, on devrait continuer à travailler avec la Turquie. À notre avis, on devrait continuer à essayer d'avoir une Turquie européenne. Et si la Turquie, sur le plan surtout des droits humains, parce que c'est de là ce qu'on parle, c'est du point de vue économique, on n'aura pas de problème avec la Turquie. Mais du point de vue démocratie, droits humains, respect des droits, etc., on aura des problèmes. Il y a une vingtaine de maires qui sont aujourd'hui en prison, à peu près 200 journalistes qui sont en prison, et les journaux, les chefs rédacteurs pensent 4 fois avant d'écrire quelque chose parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'est-ce qu'il va être le lendemain. Donc, si la Turquie fait vraiment des progrès sur ce niveau, et en plus sur le niveau, bien sûr, chypriote, parce qu'ils ont toujours une armée sur Chypre. Et je crois que l'Europe devrait garder sa position et leur donner la possibilité d'être part d'une Europe unie. Ça, c'est la vie grecque, je vous le dis seulement, parce que je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Et sur les Balkans, la situation est la même. Il y a une désillusion de l'Europe. Et quand Ursula, Madame Plasnik et moi, on était des ministres des Affaires étrangères, et à l'époque, tout le monde voulait appartenir à l'Europe. Mais il n'y avait rien de plus important pour les ministres, pour les premiers ministres, etc., que d'avoir un message positif de l'Europe pour eux. Aujourd'hui encore, il suit cette voie, mais sans vraiment croyant qu'il y aura un futur européen pour eux. Et c'est important que le Kosovo et la Serbie se sont mis d'accord. C'est important que la Serbie va ouvrir la porte. C'est important qu'on aura le Kosovo. C'est important que la Croatie a fait vraiment ce mouvement magnifique. Tout ça, c'est important. Mais dans les populations, ce n'est plus la vision de l'Europe comme c'était. C'est pour ça que c'est très important. Nous, on doit trouver la solution européenne. On doit gérer cette crise. Parce que ce n'est pas que nous qui sommes concernés. Il y a tout autour des pays qui veulent vraiment avoir aussi une raison d'être, une raison de changer, une raison de faire l'effort. Et cette raison était l'Europe. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et en plus, et je finis avec ça, l'Europe, du point de vue politique extérieure, présence de la politique extérieure est très très faible. Et je suis très poli. Je veux vous le dire. En plus, comme je ne suis qu'un membre de Parlement et pas un ministre, je peux parler librement. Mais je vous dis, c'est très 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 faible. Même en comparaison, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, tout le monde savait ce que Solana disait. Tout le monde. Si vous allez à un parlement et vous demandez qu'est-ce qu'il a dit Solana, on le savait. Aujourd'hui, je ne suis pas très sûre que quelqu'un sait.
Vous venez d'entendre Madame Dora Bakoyanis, membre associé étranger de l'Académie des sciences morales et politiques, ancien ministre des Affaires étrangères de Grèce. Sa communication s'intitulait « La France et l'Europe vue de la Grèce ». C'était une séance de l'Académie des sciences morales et politiques le 27 mai 2013.